Marc Lacroix, salut.
Salut, mon Yves.
Je devrais dire en avant, docteur Marc Lacroix.
Oh non, pas trop de docteur, là, s'il vous plaît.
Ah, tu veux pas trop de DR, toi?
Non,
hein?
non.
Mais garde, Marc, tu fais bien, parce que je te dirais que là, ces temps-ci, on parle beaucoup de maître. Maître-maître-maître-ci et maître-ça. Et quand t'écoutes la commission Bastarache, tu dis, on est devant l'élite. J'espère que dans le cas de la médecine, quand on dit docteur et quand on confie notre santé à un professionnel de la santé, j'espère qu'il y a une rigueur qui vous empêche d'être aussi médiocre que ce que nous offre le spectacle de notre monde de la justice présentement avec la commission Bastarache, entre autres, où c'est une vraie joke.
Ouais, je te dirais que c'est pathétique un peu ce qu'on voit. Hein. C'est même triste comme paysage. Mais non, je pense pas que la médecine en général
va descendre si bas.
Non, ben c'est... Ça va être dur. Ça va être dur de faire pire que ça, je pense.
Écoute, Marc, je voulais te parler parce que dernièrement, et je voulais pas utiliser le sujet pour me faire un train, comprends-tu, puis parce que c'était... Mais je t'avouerai que le fait qu'on en parle m'a donné l'idée. Je voulais pas nécessairement la laisser l'assujettir à Claude Béchard parce qu'il en était victime.
Oui.
Mais il y a deux ans, Je vais à Montréal, marché Beau Secours, puis il y a le gros exposition Bodies qui est là.
Oui.
Et c'est Wagenhagen, là, l'espèce d'allemand, la plastination. Et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on montre le corps dans tous ses aspects, des choses qu'on n'a jamais vues, même sous le plan de prendre son internet, d'aller fouiller, d'en regarder les trois dimensions. Là, on a quasiment le palpable ou presque, on peut pas toucher, mais c'est devant nous. Et je vois le pancréas.
Oui.
Et je vois comment c'est gros et comment c'est énorme. Jamais je n'aurais imaginé ça.
Non,
et il explique en dessous son rôle à lui. Et c'est un gros organe. Et là, je vois évidemment toute son importance dans le système. Et Claude Béchard, donc, qui est atteint d'un cancer du pancréas. Et on disait que dans les organes atteints par le cancer, le pancréas était peut-être le moins bien placé, c'est-à-dire le pire pour celui qui porte un cancer. Quand c'est sur ton pancréas, les chances ou le taux de réussite est vraiment mince. Pourquoi?
En fait, le pancréas, c'est une glande. Hein? C'est une glande qui sécrète des enzymes qui servent à la digestion et aussi qui sécrète l'insuline dont on a besoin pour utiliser le glucose dans nos vaisseaux. Et étant donné que c'est un organe qui sécrète et qui envoie un peu partout le fruit de ses sécrétions, si on peut dire, ben c'est certain que s'il y a du cancer à l'intérieur de la glande, vous comprendrez que ça spread assez rapidement dans le système un peu partout. Et donc, au moment où on le diagnostique, assez souvent, pour ne pas dire presque toujours trop tard, parce qu'il y a des métastases associées. On parle souvent du poumon, le foie, les os et au niveau du péritoine, au niveau de la cavité abdominale. Donc, c'est un cancer qui pardonne très rarement parce que lorsqu'on le trouve, il est déjà installé ailleurs.
Tu es en train de me raconter, en fait, que lui, il agit un peu comme un fan.
Ouais, exact. La petite analogie que tu avais faite l'autre jour, je la trouvais très bonne là-dessus, d'ailleurs.
Mm-hmm. J'ai des confettis et je veux qu'il y en ait partout dans la pièce. Eh bien, j'en pitche une poignée dans un fan que j'ai mis à quatre qui tourne de gauche à droite. Ça va donner à peu près ce que le pancréas fait quand le cancer rentre dedans. Les confettis, là, ben c'est mon cancer.
Ben regarde, un coup de 12 à 100 pieds, là, ça te donne un peu l'impact du cancer du pancréas. C'est que ça spread rapidement, ça se disperse rapidement parce que c'est une glande et c'est une glande qui envoie de ses sécrétions, si on peut dire, un peu partout dans l'organisme.
Mm-hmm.
Donc, ça prend pas un gros cancer. Un cancer très avancé pour déjà en avoir ailleurs. Et bon, c'est un peu ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas vraiment de test préventif pour le cancer du pancréas, comme par exemple pour le cancer colorectal dont on a parlé récemment. C'est pas un cancer qu'on diagnostique de façon routinière. Et lorsqu'il y a des symptômes associés au cancer du pancréas, on parle de perte de poids, d'une jaunisse par exemple, de douleurs abdominales, de changement de coloration des selles, d'un diabète, par exemple, qui apparaît de nouveau hein, dans un ciel bleu, à ce moment-là, lorsqu'on fait une investigation au niveau du pancréas, assez souvent, comme je te dis, il est déjà un peu tard. Et malheureusement, même, la seule façon de le traiter de façon, disons, curative, c'est la chirurgie. Et malheureusement, 15 à 20 des cancers seulement du pancréas, lorsqu'on les diagnostique, sont opérables. Donc, les autres, on parle seulement de soins palliatifs dans ce cas, dans la majorité des cas. Et comme je te dis, taux de survie d'un cancer du pancréas, là, c'est à peine 10 % à 5 ans.
Il faut que je te raconte une histoire. C'est mon chum Pat Carpentier qui, à un moment donné, se retrouve avec sa fille, la petite Anaïs, et il croyait que, parce qu'elle était très jeune, il était en train d'expertiser, il faisait des biopsies puis tout ça, elle était malade, elle avait pas d'énergie, il croyait que elle aurait la fibrose kystique. Il sentait ça venir ou quelque chose du genre. Et finalement, le diagnostic, parce qu'ils ont expertisé un peu plus en profondeur, était qu'elle avait fait une pancréatite.
Oui.
Explique-moi ça.
Ben, une pancréatite, ben, c'est pas un cancer, c'est une inflammation du pancréas.
Voilà.
Qui peut être due à plusieurs choses, dont, par exemple, des calculs dans les voies biliaires. On parle du cholédoc, des cholécystites, par exemple. Lorsqu'il y a un calcul dans les voies biliaires, il peut y avoir de façon contiguë associée une pancréatite. C'est une des causes les plus importantes.
Okay.
Les gens qui font aussi du cholestérol élevé ont plus de risques que les autres de faire une pancréatite. Les gens qui prennent de l'alcool de façon excessive ont aussi des chances de faire une pancréatite. Il y a des gens aussi, des types de pancréatite qui sont dus à des désordres du système immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire va envoyer des anticorps contre ton propre pancréas. On appelle ça une pancréatite auto-immunitaire. Principalement, c'est de la façon avec laquelle les gens deviennent diabétiques. Le pancréas se détruit lui-même finalement par les anticorps et n'arrive plus à sécréter suffisamment de l'insuline qui est essentielle au système. Donc, on devient incapable d'utiliser le glucose dans nos vaisseaux. Et c'est là du diabète. Finalement, c'est là qu'apparaît le diabète. Donc, c'est essentiellement les grandes causes des pancréatites qui peuvent, à long terme, s'il y en a plusieurs, découler éventuellement sur un cancer du pancréas. Mmh.
Marc, quand tu parles aux gens de ton monde, à toi, dans le monde médical, parce que tu dois te tenir à la page, et puis... je disais hier, je parlais de mon chum Jacques Gagnon qui était dentiste, donc c'est le monde médical également, et je disais, quand tu fais quelque chose que t'aimes, forcément tu le fais bien. Quand t'aimes faire quelque chose, eh ben tu te tannes jamais d'en parler, puis tu veux savoir, tu cherches. Est-ce que t'entends parler, quelles sont les dernières nouvelles sur ce gros monstre-là qui est omniprésent dans nos vies et dans nos familles, qu'on appelle le cancer? Est-ce qu'on s'est penché un peu sur sa provenance? Est-ce que le mystère commence à se dissiper un peu? Est-ce qu'on a des lueurs? Est-ce qu'on le comprend mieux? Il arrive d'où? Il vient d'où? Qu'est-ce que je peux faire pour le contourner? Est-ce que ça existe un moyen de le contourner? Ou si c'est une espèce d'inévitable? Si la vie et le cancer, c'est un peu la roulette... à Vegas, il faut juste pas qu'elle s'arrête sur le 13 noir.
Écoute, le cancer, plus on va vieillir, plus l'espérance de vie des populations va devenir grande, plus on va avoir de cancer, parce qu'inévitablement, avec le temps, le renouvellement des cellules du corps humain mène dans les différents organes à des erreurs de reproduction cellulaire. Et lorsqu'une cellule se réplique de façon anormale, de façon incontrôlée et rapide, ben ça fait une masse qu'on appelle un cancer. C'est tout simplement une anomalie de la réplication cellulaire. Les causes des cancers, un, l'âge avancé, c'est certain. Deux, certains irritants comme l'alcool, le tabac, les nitrites quand on mange, la diète, certains produits chimiques dans notre alimentation moderne qui sont presque partout. C'est sûr que nos gènes à nous sont un facteur indéniablement aussi de risque lorsqu'on en a dans notre famille, notre génétique nous suit. On n'est pas condamné, mais s'il y a 4 personnes dans votre famille, par exemple, qui a eu un cancer du sein dans la quarantaine, je vous suggère fortement de faire des mammographies avant l'âge de 40 ans. Donc, c'est un peu, il y a le patrimoine génétique qui est en cause. Il y a aussi le mode de vie, on ne se le cachera pas. Quelqu'un qui a un mode de vie sain, qui fait du sport régulièrement, qui mange bien, qui gère bien son stress, a de beaucoup moins grandes chances de éventuellement déboucher sur un cancer. Mais je pense que le cancer va mener... il y a beaucoup de découvertes qui se font actuellement dans la recherche et qui vont mener, je pense, à des traitements beaucoup plus, disons, curatifs que ce qu'on a connu dans les dernières 30 années. Et le taux de survie de la grande majorité des cancers tend à s'améliorer, là, surtout depuis une dizaine d'années, c'est clair. Mais la prévalence, elle, c'est certain, ne fait qu'augmenter. D'où l'importance, comme je le dis toujours, d'avoir une médecine préventive et de faire de la prévention dans nos bureaux et de ne pas s'occuper que des problèmes qui nous sont présentés par les patients, mais d'aller au-delà de ça et d'aller dans tous les cas, si on le peut, effectuer un minimum de prévention. Moi, je pense beaucoup au cancer colorectal, qui est un fléau dans nos sociétés. Et moi, dans mon cas, dès que tu as 50 ans et plus et que tu passes dans mon bureau, malheureusement, ben, ça va te prendre une colonoscopie. Et ça devient de plus en plus la norme en Amérique du Nord. Et je te dirais que, comme je dis aux gens, on trouve ce qu'on cherche en médecine. Et si on cherche rien, on trouvera rien. Mais moi, d'emblée, cancer colorectal, plus de 50 ans, c'est la colono aux 5 ans. Si naturellement, tu as des antécédents de cancer colorectal dans ta famille, en bas âge, ben, c'est sûr que le dépistage commence avant. Mais le cancer, il ne faut pas attendre qu'il soit symptomatique avant de consulter. Il faut le prévenir. Dans le cas des femmes entre 50 et 69 ans, il y a un programme au Québec qui s'appelle la mammographie de dépistage qui s'effectue de façon quand même très correcte. C'est un des bons programmes au Québec qui fonctionne bien. Et les femmes en haut de 50 ans devraient toutes subir leur mammographie de façon routinière. Il ne faut pas attendre d'avoir une bosse sur un sein pour agir. Et lorsqu'on trouve un cancer de 3 mm ou de 4 mm, c'est pas la même implication que lorsque le cancer est à 5, 6 cm et qu'il y a des atteintes ganglionnaires proximales. Donc, d'où l'importance de la prévention. Et je pense que ça, c'est un élément clé au niveau du cancer.
Moi, Marc, quand tu me parles de prévention, je suis en accord avec toi à 100% et je rajoute toujours la sempiternelle réponse. C'est rien. Il y a aucun montant d'argent qui justifie de ne pas prendre en charge sa santé et justement d'aller au-devant, de travailler dans la prévention. Avec ta clinique médicale, tu viens de me jaser un peu, puis j'ai l'impression que devant toi, tu avais quelqu'un qui venait te visiter pour un problème X, puis en même temps, tu as vu son âge, et puis tu y as parlé des autres choses qui seraient importantes pour elle, et puis, mon Dieu, qu'on ne prend jamais le temps... Quand tu as la nouvelle, il est beaucoup trop tard. Et tu remarqueras, et c'est toujours ça, les gens disent toujours le fameux « j'aurais dû ». Ouais. J'aurais donc dû. Et le « j'aurais donc dû », là, ben, on peut le modifier, on peut le changer.
40 ans et plus, un bilan de santé par année chez le médecin, c'est essentiel, c'est un minimum. Écoutez, combien de fois par année vous allez rentrer votre voiture pour faire permuter les pneus, changer d'huile, graisser ici, graisser ça, changer une pièce de façon préventive dans la conduite? On fait ça avec nos voitures, mais avec nous, on se dit que ça va bien. Faut pas attendre les symptômes, faut pas attendre qu'il soit trop tard. Moi, je pense toujours à George Thurston avec son cancer colorectal qu'on aurait pu éviter.
Effectivement.
Écoute, c'est clair que la prévention, ça paye. Et $1 qu'on va investir en prévention va nous rapporter environ $10. C'est démontré par des études sérieuses. Il faut le faire. Il faut pas attendre. Et c'est pas parce que apparemment tout va bien que tout va nécessairement bien. Alors, j'invite vraiment les gens à passer un petit bilan de santé et à s'occuper au moins une fois par année de leur santé. Les demoiselles, les papesses, là, c'est aux années, là. J'ai une dame, là, qui est venue me voir la semaine passée, qui avait une lésion sur le col. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas eu de papesse. Et là, j'attends les résultats, là, de la colposcopie. Mais les papesses, là, c'est pas aux 3 ans, c'est aux années.
Mmh. Hein?
Et puis les mammos, là, c'est entre 50 et 69 ans. Faut pas les sauter. 50 ans et plus, colonoscopie. Le diabète, le cholestérol, l'hypertension, il n'y a pas de symptômes dans la grande majorité des cas. Faites-vous faire des prises de sang au moins une fois par année. Hein?
Marc, 8-91-11 pour ta clinique médicale privée où tu offres plein de services connexes pour la visite, pour mon bilan de santé. J'ai besoin de voir un spécialiste. Je suis toujours effrayé, puis je me dis, j'irai pas pour rien, je file bien. Puis de toute façon, mon prochain rendez-vous, le seul rendez-vous que je pourrais avoir, c'est dans 1 an et demi. Alors, tu es capable de travailler et faire en sorte qu'un an et demi de rendez-vous pour un spécialiste, tu peux changer ça en une journée et demie aussi, parce que tu connais le milieu, tu connais les gens, tu connais le monde public aussi, et puis tu es capable de travailler. T'sais, quand je dis dans le pub, on travaillera pour vous, tu vas le trouver, le spécialiste.
On se fait en quatre pour que ce soit le plus rapide possible, et fiez-vous sur moi. Lorsque c'est urgent, pour moi, c'est toujours pour hier. Et un dermato, c'est 12 mois dans le réseau public. Quand il y a un cancer dans le front de quelqu'un, le dermato, c'est le lendemain. Et il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait non plus. Et lorsqu'il y a des gens qui ont des inquiétudes et qui ont des symptômes alarmants, il faut que ça procède rapidement. Et nous, on s'est donné les moyens, en montant une équipe ici spécialisée, de trouver pour les patients les meilleurs délais. Et je peux vous dire qu'il y a des miracles qu'on peut faire dans certains cas. Et ça va nous faire plaisir de vous en faire bénéficier au besoin. Les gens ici ont apprécié énormément ce service-là. Et on va se battre pour que les gens puissent avoir le plus rapidement possible accès au plateau technique, accès aux outils diagnostiques et, dans certains cas, aux spécialistes qui peuvent les traiter et les guérir.
Tu es en train de travailler à ouvrir une autre clinique, Marc. Oui. J'ai l'impression que tu aimes ça, là.
Oui, oui, écoute, il y a un marché qui est énorme. Le besoin est croissant. Les gens réclament ce genre de service-là. Malheureusement, le réseau public actuellement n'arrive plus à suffire à la demande. Et je te dirais que le privé peut rapidement offrir des alternatives aux gens. Et nous, avec la formule qu'on va adopter, qui va être une formule sous forme de réseau de cliniques, les gens vont être membres à un endroit, vont pouvoir aller partout. Et nous, notre but, c'est qu'il y en ait dans la province un peu partout. Alors, les gens qui voyagent, les gens qui ont des résidences un peu partout, qui se promènent au Québec, vont avoir des services de façon uniformisée un peu partout. Et lorsqu'ils sont membres d'une clinique, comme quand vous êtes membre dans un genre chez Énergie Cardio, pour ne pas les nommer, eh bien, vous pouvez vous entraîner un peu partout dans la province. Et nous, c'est un modèle qu'on veut implanter dans la santé. Donc, c'est certain qu'avec un modèle comme ça, on va réussir, je pense, à désengorger le réseau public, à diminuer la pression sur la première ligne, les urgences, etc. Et je crois que c'est un modèle qui peut être rapidement mis en application, on le voit actuellement, et qui est porteur aussi de toutes sortes de, disons, d'espoir et de retombées. Quand je parle de prévention, c'est important d'en faire, et chez nous, c'est un des éléments clés là, sur lequel on table.
Marc, je te remercie et on se reparle prochainement. On aura d'autres sujets. Et puis encore une fois, ce sera intéressant. 841-1911 en passant, c'est pas un infopub, c'est simplement le fait de se conscientiser à savoir que la prévention, ça a pas de prix.
S'il y a des gens qui veulent des fois entendre parler d'un sujet X, Y, Z, ben envoyez-moi ça, puis regarde, on va vous faire une petite chronique, ça va me faire plaisir.
Bien aimable à toi, Marc.
Les gens, ça fait partie de la mission du médecin.
Salut mon Marc, on se reparle.
Merci beaucoup mon Yves.
Au plaisir.
Une belle journée.
Docteur Marc Lacroix, t'as avec nous.